affinités électives. Une émission proposée par Canal Academy.
Chers amis, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Academy, merci de votre fidélité. Il y a bien sûr plusieurs façons d'appréhender, de recevoir, d'observer une œuvre d'art. La première, la plus basique, mais évidemment inévitable, consiste à tout simplement se dire face à une œuvre, je l'aime, je ne l'aime pas, c'est joli, ce n'est pas joli, ou de façon plus expéditive encore, cela me plaît, cela ne me plaît pas. Et puis, il y a bien sûr une façon plus aboutie de l'observer, celle qui consiste à exercer son regard, à le travailler, à l'aiguiser, en recourant aux enseignements de l'histoire de l'art, ce qui permet de la replacer dans un contexte de développement des techniques, de la sensibilité et d'autres éléments encore relevant donc de l'esthétique. Et puis, il y a une troisième façon d'appréhender une œuvre d'art, c'est de la voir comme un témoignage, une pièce historique qui nous renseigne sur une époque, sur sa sensibilité bien sûr, mais aussi sur les événements historiques, voire même dans une démarche plus proche de celle de l'histoire sociale, sur la vie intime des personnes vivant à telle ou telle époque. Et l'exposition dont nous allons vous parler aujourd'hui, que nous allons évoquer, et qui se tient au musée Marmottan-Monet, L'art et l'enfant, formidable exposition qui permet donc de redécouvrir les conditions de vie et d'existence des enfants à travers les chefs-d'œuvre de la peinture française, permettra donc d'exercer ces trois regards en un seul. Et c'est la raison pour laquelle nous ne recevons pas aujourd'hui un invité, mais deux, en la personne de Marianne Mathieu, adjointe au directeur chargé des collections du musée Marmottan-Monet, mais également Dominique Lobstein, historien de l'art, et même s'il n'est pas présent, le troisième co-commissaire, Jacques Gélis, non présent dans notre studio, mais dont les apports seront fortement évoqués tout au long des trois quarts d'heure que nous allons passer ensemble. Alors pour commencer justement, je dis, il y avait trois co-commissaires. Marianne Mathieu, pouvez-vous nous parler de la genèse de cette œuvre collective que constitue cette exposition L'art et l'enfant, qui se tiendra donc jusqu'au 3 juillet prochain?
Alors cette exposition L'art et l'enfant, c'est avant tout une exposition qui est liée à l'identité, à l'histoire des collections du musée Marmottan-Monet. Le musée Marmottan-Monet, c'est cette propriété de l'Académie des Beaux-Arts qui, grâce au don d'une trentaine de personnalités, a enrichi ses collections depuis son ouverture au public en 1934. Et les collections sont aujourd'hui notoires pour le fonds impressionniste, premier fonds mondial d'œuvres de Claude Monet et de Berthe Morisot, mais il ne s'arrête pas là, loin s'en faut, et le corpus qui est accueilli, qui est aujourd'hui conservé au musée Marmottan, va du Moyen-Âge au XXe siècle, des enluminures jusqu'à des œuvres de Chagall qui sont présentées dans la salle à manger de Paul Marmottan. C'est bien cette envergure chronologique, cette richesse dont nous souhaitions rendre compte à travers ces expositions temporaires pour raconter, effectivement, rappeler une part de l'identité extrêmement plurielle et très diversifiée du musée Marmottan. Alors pourquoi les enfants? Eh bien, l'amateur, le visiteur, l'amoureux du musée Marmottan, lorsqu'il se promène au rez-de-chaussée dans les salons, découvrira les enfants de la duchesse de Feltre qui sont portraiturés au début du XIXe siècle par Fabre, la petite fille aux cerises de Madame Chaudet, ou à l'étage, bien évidemment, Julie Manet qui est une de nos ambassadrices, la fille de Berthe Morisot et de Eugène Manet. Alors, nous avons fait un constat simple. Ces enfants ont tous le même âge, mais ils ne semblent pas avoir la même enfance. D'où ce thème qui est aujourd'hui abordé au musée Marmottan, l'art et l'enfant, et à travers lequel nous avons souhaité réunir un collège d'historiens et d'historiens de l'art pour pouvoir questionner autrement les chefs-d'œuvre de la peinture française.
Alors précisément, je crois que vous avez pris le parti d'une présentation chronologique. Quelles sont, pour commencer, les grandes inflexions que l'on peut constater dans la place de l'enfant, dans l'histoire, à travers ces chefs-d'œuvre de la peinture française, les grandes périodes?
La présentation de l'exposition est thématique. Elle va commencer avec un enfant Jésus. Le premier enfant qui a le droit d'être représenté, même s'il est représenté comme un petit homme, c'est l'enfant Jésus. Et puisque le roi de France et l'émanation de Dieu sur terre, c'est son fils le dauphin qui va ensuite être représenté, et du dauphin on va passer aux enfants de l'aristocratie et puis aux enfants de la bourgeoisie. Donc c'est ce lent passage depuis les plus hautes sphères de la société jusque dans les couches les plus populaires qu'on va expliquer tout au long de ce parcours.
Alors est-ce que il n'y a pas un biais dû à la présence des pièces? Est-ce que ce n'est pas simplement parce que les chefs-d'œuvre représentent les enfants de l'aristocratie ou des hautes sphères de la société? Est-ce qu'on ne peut pas penser qu'il y aurait d'autres œuvres plus modestes mais n'ayant pas traversé le temps?
Alors, on a pensé à ce biais. Et non, on a des souvenirs de tout ce qui a été créé. On n'a pas tout, mais on a des souvenirs de tout. Et par exemple, quand on représente les enfants de l'aristocratie ou de la grande bourgeoisie au XVIIe siècle, on a voulu le contrepoint qui sont deux œuvres des frères Lenain. C'est-à-dire pour une figure d'invention, ce ne sont pas des petits paysans qui sont représentés, mais c'est tel qu'on veut donner à voir les paysans de l'époque. Donc il y a des confrontations d'autres classes sociales, mais à ce moment-là, on n'est plus dans la représentation directe, on est dans une espèce d'allégorie de l'enfance.
Anne-Mathieu, vous voulez ajouter quelque chose?
Oui, au sujet de cette première section, donc il y a effectivement un parcours chronologique dans l'exposition et à travers le choix des œuvres, le choix aussi de l'accrochage, c'est-à-dire des perspectives, des comparaisons que le visiteur pourra faire de lui-même, il s'apercevra qu'effectivement, être un enfant au XVIIe, au XVIIIe siècle, puis au XIXe siècle, ne revêt pas la même réalité. Et dans cette première salle, qui est dédiée principalement à cet enfant roi, eh bien nous présentons un portrait anonyme, enfin d'un peintre anonyme, qui représente Louis de Dieudonné, le futur roi Louis XIV, à l'âge de 2 ans. Et on voit ce bambin qui se tient droit comme un i et qui est vêtu déjà du manteau d'hermine et qui tient dans sa main un petit narcisse qui est la préfiguration du sceptre qu'il portera plus tard. Et on voit bien que dans cette effigie, tout concerne le devenir d'un pays et l'avenir de ce roi plutôt que l'enfant. Et donc l'enfant n'est pas véritablement un sujet de peinture en soi, il est une promesse d'avenir, il est le maillon d'une filiation. Et donc c'est cette première idée que nous développons dans cette section à travers une sélection d'œuvres de Philippe de Champaigne, notamment tout à fait remarquable, et également des frères Lenain, où on a ce contrepoint où l'enfant n'est pas plus un sujet de peinture, mais il est une figure de fantaisie, des peintures qui étaient donc réalisées par ces artistes pour une clientèle qui était une clientèle bourgeoise et qui n'avait en rien pour vocation de rendre compte de la réalité de la vie quotidienne des enfants.
Donc dans un premier temps, l'idée qui ressort, c'est que l'enfant s'inscrit n'est qu'un maillon d'une lignée. Le mot-clé dans cette première période, dans la sensibilité de la société à l'égard de l'enfant, c'est promesse d'avenir, héritage, comment le perçoit-on?
On le perçoit exactement comme cela. C'est-à-dire qu'on ne le représente pas comme un enfant, et l'enfance n'est pas considérée comme un âge de la vie à part entière. C'est une période transitoire vers l'âge adulte. Alors les tableaux que l'on présente le racontent à leur manière. Nous avons Le vœu du roi, qui est un tableau de Philippe de Champaigne qui est présenté, où on voit le jeune Louis XIV en train d'offrir sa couronne à l'enfant Jésus. Il est accompagné de son frère Louis de France. Philippe de France. Et là, on voit bien, si vous voulez, que Louis XIV est représenté beaucoup plus grand que son frère, alors qu'ils n'ont que 2 ans de différence. Et donc, il y a ici une perspective hiérarchique qui est mise en œuvre par l'artiste. Et donc, on voit bien encore que le sujet de la peinture se situe ailleurs que la représentation de l'enfance. Nous avons aussi un portrait d'Anne d'Autriche accompagnée de ses deux fils, donc le futur Louis XIV d'un côté, Philippe de l'autre, et les deux enfants portent la robe. Et très longtemps, plusieurs siècles, les enfants vont porter la robe, et donc il n'y a pas de distinction de genre très très évidente qui va se faire entre les garçons, entre les filles. Donc tout ça pour vous montrer que chaque tableau qui est présenté dans l'exposition raconte un élément de cette histoire et tente à l'illustrer. Et c'est ce que nous avons d'ailleurs voulu soutenir à travers des panneaux pédagogiques, c'est-à-dire des tableaux qui des panneaux, des textes qui racontent, je dirais, le thème de chaque section. Et puis, plus précisément, pour des peintures, nous avons un commentaire qui vient justement mettre en évidence ce qui relève de l'histoire, du statut de l'enfant. Et ce que l'on découvre dans cette exposition, ce que l'on essaie d'illustrer plus précisément, c'est que c'est un statut qui est soumis à une grande évolution durant les siècles.
Dans, vous avez cité Philippe de Champaigne. Parmi les œuvres présentées, il y a également le portrait d'un enfant mort. Je la cite pour montrer que l'exposition ne présente pas seulement l'enfant dans un cadre uniquement institutionnel, mais qu'il est également possible de découvrir ses conditions de vie ou de survie, souvent difficiles au cours de ces siècles.
Nous sommes au XVIIe siècle avec Philippe de Champaigne. Un enfant sur quatre meurt avant un an. Un autre meurt avant 20 ans et l'espérance de vie au total est de 30 ans. Vous voyez, tout se réduit à une autre dimension que celle qu'on peut connaître. Alors le tableau que vous citez, c'est un tableau célèbre qui appartient au musée de Besançon. C'est le seul exemple qu'on ait de représentation d'un enfant mort. Depuis la fin du XVe siècle, on avait pris l'habitude de réaliser ce qu'on appelle des feintes, c'est-à-dire des substituts du cadavre qui sont faites à partir de bois et de tissu. Et puis, à partir du moment où vous avez un substitut, il devient quelque chose de sacré, donc ça devient très difficile à gérer, basiquement. Et donc, on préfère remplacer ça par un tableau. Et vous avez dans des pièces spéciales, des hôtels particuliers, vous avez comme ça le souvenir des ancêtres sur leur lit de mort. Et il y a ce portrait d'enfant.
Un peu comme des dieux l'art.
Non, parce qu'on ne leur voue pas une dévotion particulière. On entretient le souvenir de la lignée. C'est toujours cette idée qu'il faut s'inscrire dans une lignée qui va se perpétuer. Et la présentation est toujours faite de la même manière. Vous avez vraiment le personnage qui est installé en diagonale dans le tableau. Il a la tête posée sur un oreiller blanc. Il a un drap blanc et une couverture de couleur, les yeux fermés. Et voilà. On en connaît un certain nombre. Mais d'enfant, c'est le seul que nous connaissions.
Comme témoignage de cette mortalité infantile absolument effroyable, il y a également des exotos, il y en a qui sont présentés, je pense, dans l'exposition.
Non.
Dans le catalogue, il y en a.
Oui. Voilà. On en a reproduit, mais le portrait funéraire, c'est vraiment un genre tout à fait particulier. L'exvoto est souvent accompagné d'inscriptions ou de détails anecdotiques qu'on n'a pas retenus pour notre démonstration.
Alors ensuite, après cette période où le regard a quand même focalisé... Vous vouliez rajouter quelque chose ? Non. Après cette période où le regard a quand même focalisé sur les enfants de l'aristocratie, où il est lié quand même à son destin futur, le dauphin est appelé à régner, il va s'inscrire dans l'histoire des familles régnantes ou de pouvoir, quelles sont les premières inflexions que l'on peut trouver dans ce statut de l'enfant ?
C'est bien évidemment le siècle des Lumières. Tout bascule aux alentours de 1760 et cette évolution, elle est évidemment multiple, elle est philosophique, intellectuelle, elle est politique et elle est médicale. Alors, on ne va pas rentrer dans tous ces détails, mais nous avons voulu signifier cette évolution en figurant dans l'axe de notre exposition. Un grand écorché de Gauthier d'Agoty, qui est une pièce rarissime, qui nous a été prêtée par l'Académie de médecine et qui représente eh bien, la position de fœtus avant l'accouchement. Et donc, il y a deux présentations, l'une qui se fait la tête présenter la première, et puis une autre plus problématique par le siège. Tout cela pour montrer qu'avec, bien évidemment, les philosophes des Lumières, la publication de l'Émile en 1761, si ma mémoire ne me fait pas défaut, 62, Dominique me rappelle à l'ordre. Bien évidemment, le populationnisme qui veut qu'un État ne soit fort que du nombre de ses sujets, il y a une véritable volonté de lutter contre la mortalité infantile. Alors, nous le signifions à travers plusieurs œuvres dans l'exposition. Cette exceptionnelle planche de Gauthier d'Agoty qui fait quasiment 2 mètres de haut, donc c'est une pièce rarissime. Nous avons aussi des petites pièces d'ivoire, un mannequin viscéral où on présente un fœtus. C'était dans le ventre d'une mère. C'est une petite poupée d'ivoire qui était destinée à une clientèle d'amateurs de curiosités. bien évidemment un abrégé de manuel d'accouchement de Madame Ducoudray qui va sillonner la France pour former les sages-femmes aux techniques de l'accouchement. Et puis, un tableau du peintre Roland Trinquès présentant une aristocrate en train d'allaiter son enfant. Et donc, ces éléments de l'exposition sont là pour signifier qu'il y a effectivement un moment où tout bascule, une inflexion qui va avoir une double conséquence dans le domaine des arts et dans la vie des familles et des enfants. La première, c'est que l'affection, hein, c'est ce que Ariès appelait le triomphe du sentiment familial, se donne à voir. Alors qu'au début de l'exposition, on va découvrir le portrait d'Anne d'Autriche extrêmement figé, statique, accompagné de ses deux enfants, eh bien là, nous présentons une succession de peintures, que ce soit des aristocrates ou, dorénavant, des bourgeois, qui se font représenter en train d'enlacer leurs enfants. Et c'est ce que l'on connaît à travers les peintures de Vincent et puis communément de Madame Vigée-Lebrun. Donc ça, c'est un premier élément. Et puis, le deuxième élément, c'est effectivement l'apparition pour la première fois de ce portrait d'enfant autonome, d'un enfant qui est représenté pour ce qu'il est, c'est-à-dire un petit être qui joue et qui apprend. Et c'est bien évidemment l'enfant au Toton de Chardin, ce chef-d'œuvre du Louvre qui nous a été prêté parmi d'autres très nombreux prêts du Louvre, qui figure comme un des jalons majeurs de l'exposition et de cette époque.
Peut-être revenir sur la question de l'allaitement, qui était, semble-t-il, centrale à l'époque, puisqu'une partie de la mortalité provenait du fait que les enfants étaient sortis du milieu familial, envoyés en nourrice à la campagne, ou pas à la campagne d'ailleurs, mais avec les mêmes conséquences. On n'a pas l'impression aujourd'hui, lorsqu'on voit ce tableau d'une aristocrate allaitant son enfant, ça peut sembler banal, à l'époque ça ne l'est pas du tout.
Ah non, pas du tout. Alors je voudrais revenir un instant sur la mise en nourrice. Il y a un très joli passage dans un article, dans un essai de Jacques Delisle du Catalogue, où il explique qu'en fait ce qui a sauvé Louis XV, qui n'est quand même que le petit-fils de Louis XIV, c'est le fait qu'il était envoyé en nourrice et plutôt loin de la cour. C'est ce qui lui a permis, il a été élevé dans des conditions saines, avec des nourrices qui ont pu l'allaiter et tout ça, et c'est ce qui lui a permis de vivre, ce qui n'a pas été le cas de ses parents, ça c'est une chose. Donc Rousseau dit, il faut allaiter ses enfants, ça crée un lien particulier. Il faut attendre 10 ans après la publication de l'ouvrage pour qu'un premier peintre ose représenter son épouse en train de donner le sein à leur fils. Le tableau est disparu, mais bon, ça reste quand même une référence absolue. Et ensuite, ces tableaux seront très rares. C'était un peu révolutionnaire qu'une aristocrate, une grande bourgeoise révèle sa poitrine comme ça à tous les gens qui pouvaient voir le tableau. Donc celui-ci est probablement le troisième qui a été peint, il date de 1777, donc vous voyez quelque chose qui se met très, très lentement en place. Et puis l'autre aspect, le sein est autre chose, il y a autre chose à voir d'inhabituel, c'est quand même dans ce tableau, on voit le derrière du bébé, ça y est, il a quitté les langes, il a quitté toutes ces bandelettes dont on l'habillait pour qu'on soit sûr qu'il ait les jambes droites, et tout d'un coup il est libéré, hein, l'enfant se libère aussi à cette occasion.
Alors vous évoquez le fait inhabituel de pouvoir voir découverte la poitrine d'une aristocrate ou d'une grande bourgeoise. Il faut préciser qu'au-delà de la pudeur, parce que là c'est pour la représentation bien évidemment, mais au-delà de la pudeur, je découvre dans le catalogue qu'en 1780, soit presque 20 ans la publication de l'Émile, sur les 20 000 enfants qui étaient nés dans cette ville, seuls 700 étaient nourris par leur mère, 700 autres par des nourrices à domicile, 2 à 3 000 enfants de la bourgeoisie étaient placés dans les environs, les autres étaient confiés par des meneurs à des paysannes qui étaient prêtes à vendre leur lait à bas prix. Autant dire que c'est un siècle où les idées progressent, mais les pratiques évoluent finalement encore assez peu. On est en mutation.
Plutôt lent, oui.
Vous avez évoqué le fait que l'enfant devient un sujet en lui-même. Quelles sont les œuvres les plus caractéristiques de cette évolution, parmi celles qui sont présentées?
Nous présentons dans cette section une suite de tableaux autonomes d'enfants. Nous avons deux magnifiques jardins, l'enfant au Toton que j'évoquais tout à l'heure, et un tableau qui nous a été prêté par le musée d'Houston qui s'appelle la bonne éducation. Et donc, ça représente une mère qui dispense la bonne éducation à sa petite fille qui se tient debout, droite devant elle. Alors, que fait-elle ? Eh bien, elle récite l'évangile et à côté, on devine, enfin, on découvre un panier qui est un panier de couture. Et ça nous rappelle que l'instruction qui est donnée aux petites filles diffère singulièrement de celle qui est dispensée aux petits garçons. Les petites filles ont une éducation morale et religieuse et pratique, alors que les petits garçons, eux, vont avoir une instruction beaucoup plus classique, académique, et donc vont étudier les grands personnages de la Bible, comme c'est écrit dans un des tableaux de Girodet que nous présentons. Donc nous avons aussi une sélection d'œuvres de Greuze et de Girodet-Triezon, qui présente ses enfants seuls en train d'étudier et de se distraire ou d'abandonner pour un moment le jeu qui devient finalement l'apanage de l'enfant. Et on voit dans tous ces portraits, vous avez systématiquement la représentation d'un livre qui est un livre ouvert, et très régulièrement vous avez dans une poche un bilboquet qui dépasse ou un tiroir qui est ouvert dans lequel vous allez découvrir eh bien un jeu de cartes. Et donc c'est cette double réalité de l'enfance qui est mise en avant par les peintres, qui n'omettent pas non plus de se saisir de ce nouveau sujet de l'enfant comme finalement aussi d'un nouveau sujet, d'un vecteur de la vanité et de la fragilité de l'existence. Et on le retrouve à travers la représentation de fleurs, dont effectivement on sait la beauté et la durée de floraison est extrêmement limitée. Puis nous présentons un très beau tableau de Benoît Agnès Triezon, accompagné de son père, qui est un portrait posthume. Et là, le peintre va solliciter finalement toute l'iconographie traditionnelle, à la fois la représentation d'une nature morte, une grappe de raisin qui est entamée et qui souligne la brièveté de la vie, puis la représentation de ce jeune homme, dorénavant représenté de profil, à la manière des mémoires commémoratives.
À travers ces peintures, on distingue aussi l'évolution d'une part de la place de l'enfant, mais aussi de la famille. C'est-à-dire qu'on passe de la lignée à la famille, papa, maman, l'enfant ou les enfants. Ce qui, évidemment, notre représentation assez commune aujourd'hui, mais plutôt révolutionnaire à l'époque.
Ça s'inscrit dans le droit fil du siècle des Lumières. On se recentre sur la famille au sens large. Il y a un tableau magnifique dans l'exposition qui est aussi un prêt du Louvre, qui est un tableau de Pajou. Les Pajou, c'est vraiment une dynastie d'artistes, sculpteurs et peintres. Et donc, dans le tableau, on voit l'artiste, son père, on a même un portrait du grand-père, et puis il y a la mère qui tient l'enfant sur les genoux, c'est vraiment le centre de l'attention, hein. C'est vraiment lui le point focal de la représentation, et il y a une bonne qui tient un miroir face à l'enfant, et l'enfant découvre son image. Et donc, tout est fait pour que notre regard s'intéresse à l'enfant, la famille n'étant que le faire valoir. Donc c'est vraiment ces idées nouvelles qui émergent et dont on a voulu se faire l'écho.
Il y a aussi un tableau qui est assez extraordinaire, celui de... Il n'est pas dans l'exposition, il est dans le catalogue, il faut aller voir l'exposition, mais aussi acheter le catalogue pour avoir une vision plus panoramique. Mais il faut d'abord aller à l'exposition, on est bien d'accord. On a vu une évolution qui est là lumineuse, et il y a un autre aspect qui est présent, c'est quand même les bouleversements parfois dramatiques qu'apporte la nouvelle organisation sociale pour les enfants, notamment la révolution industrielle. Quelle est la place de l'enfant dans tous ces bouleversements? On a vu les aspects qui relèvent du progrès, il y a aussi d'autres aspects qui sont plus dramatiques, non?
La révolution industrielle, l'exode rural vont faire complètement éclater la famille. On avait l'habitude dans les campagnes de vivre à plusieurs générations au même lieu. On arrive en ville, le logement est plus compliqué, donc les familles vont se restreindre. Et comme les parents doivent travailler beaucoup, et puis qui continuent à mourir jeunes, donc vous avez un tas d'enfants qui vont être les victimes de ces progrès de la société. Et alors si vous avez toujours une tradition du portrait qui ignore cet aspect de la société, avec les peintres réalistes, Courbet, Daumier, Millet, ou avec les naturalistes qui leur font suite, Bastien Lepage ou Pelèze, vous avez justement une illustration des difficultés de la vie au XIXe siècle.
Avec une œuvre en particulier ?
Bah écoutez, l'œuvre qui m'est le plus cher, c'est un tableau de Fernand Pelès, qui est peut-être pas l'artiste le plus connu, mais c'est une peinture qui marque tous les visiteurs. C'est vraiment une peinture dont on parle beaucoup. C'est un tableau qu'il a exposé en 1885 sous le titre « Un martyr ». Et ce qui est déjà étonnant, c'est son titre. C'est un titre qui met tellement mal à l'aise, parce qu'un enfant endormi dans un coin de porte qui s'appelle un martyr, ça met tellement mal à l'aise les gens, les historiens d'art et tout, que le tableau a été rebaptisé depuis et on l'appelle « Un marchand de violettes ». On essaye de gommer justement le côté dramatique de la représentation. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est un gamin qui est livré à lui-même, il est en haillons, sans chaussures, et il vend des violettes. Mais en creux, qu'est-ce que ça signifie ? C'est qu'il est dans un quartier, dans un grand boulevard où il y a les théâtres et les restaurants, et qu'en fait, il est la face cachée du Paris de la fête, du Paris impérial, et puis ensuite du Paris des débuts de la République. Et donc, c'est pour nous une œuvre vraiment très marquante de cette évolution de la représentation de l'enfant. Avant qu'on lui confère un vrai statut, puisqu'il faudra attendre 1889, donc 4 ans plus tard, pour que les premières lois sur la défense des enfants moralement abandonnés soient édictées.
Je vous confirme que la simple observation de cette œuvre donne la chair de poule. On en a les poils qui se hérissent, d'autant qu'il a l'air est au bord de l'épuisement, mais on ne sait pas si c'est un dernier soupir ou si ça va reprendre, mais les perspectives... ne sont pas roses, c'est certain. Une ambiance un petit peu la Dickens, non, je sais pas.
Hector Malot.
Dans l'exposition, ce que nous avons aussi voulu souligner, vous le disiez vous-même tout à l'heure en parlant effectivement de la présence des nourrices encore au XVIIIe siècle et de cette lente évolution dont les peintres ne rendaient pas compte. Jusqu'au début du XIXe siècle, la représentation de l'enfant, qu'il soit l'objet d'une lignée, le maillon d'une lignée, c'est-à-dire un objet dans la peinture, ou qu'il devienne un sujet au XVIIIe siècle, est réservé à un cadre extrêmement privilégié, royal, aristocratique, puis de grande bourgeoisie. À partir du XIXe siècle, toutes les enfances font l'objet de sujets de peinture. Et donc, dès lors que l'enfant devient, avec Chardin, un sujet de peinture, eh bien, au siècle suivant, il est l'un des sujets de peinture de prédilection. Et là, pour la première fois, on a la représentation de cette enfance extrêmement contrastée avec l'enfance rurale, et Dominique le rappelait avec les peintres réalistes, la misère urbaine dont rendent compte les naturalistes, et puis bien évidemment, leur pendant, l'opposé, ces enfants choyés dont se feront les interprètes que sont les peintres impressionnistes.
Ce qui est frappant, c'est qu'en fait, ils deviennent sujets de peinture en même temps qu'ils deviennent progressivement sujets de droit.
Absolument, oui, le rapport est tout à fait évident.
Alors, vous parliez de 1889 comme une césure. Il y a un autre aspect dans ces années-là, quand même, puisqu'on parlait du statut de ces enfants. Il devient sujet de droit, mais il devient aussi acteur de la guerre. C'est un enfant qui est enrôlé, et je crois que vous avez dédié une salle spécifique à cet aspect-là, l'enfant et la guerre.
Au milieu de l'exposition, on a rompu un peu le parcours chronologique pour réunir 4 œuvres pour parler justement des enfants dans le conflit. C'est plus large que la guerre, puisque la première représentation concerne la révolution de 1830. Les enfants ont toujours été acteurs des guerres et des conflits, mais progressivement, à partir de Bonaparte, en 1800, on décide de leur donner un statut. Et ils vont devenir enfants de troupe. Et les enfants de troupe, c'est le sujet de 2 tableaux célèbres, le tableau de Manet du musée d'Orsay, Le Fifre, et le tableau des wagons à l'aise, qui est présenté dans l'exposition, qu'on appelle le clairon ou l'enfant de troupe. C'est donc des enfants qui sont éduqués pour d'abord jouer de la musique militaire. Alors, ensuite, ils peuvent rentrer dans l'armée et tout, mais d'abord, c'est pour en faire des petits musiciens. Cette école des enfants de troupe disparaît vers 1884 pour être intégrée aux écoles militaires. Mais en 1882, avec les grandes réformes scolaires de Jules Ferry, on va créer les bataillons scolaires. Donc on est là dans l'idée de la revanche sur l'Allemagne. C'est quelque chose qui va durer relativement peu de temps, mais pendant 15 ans, 20 ans, les enfants au-delà de 7 ans, les garçons, au-delà de 7 ans, auront une formation au maniement des armes. Et donc, le dernier tableau qu'on présente dans cette petite section, ça s'appelle « Les étrennes de la guerre ». Donc, on est en 1916, donc en pleine guerre. Les gamins ont des calots et des képis comme des militaires. Et qu'est-ce que la guerre leur offre comme cadeau ? Et bien, ce sont des canons miniatures, ce sont des armes, ce sont des trompettes et des clairons. Donc... voilà, mais comme je vous disais, les bataillons scolaires, ça va durer relativement peu de temps. Et il y a comme un recul de l'État par rapport à l'engagement armé des enfants. Et en 1900, en fait, on essaye de les abstraire de la guerre. Dans la suite de l'exposition, on va voir des dessins d'artistes qui sont devenus célèbres, mais qui, quand ils ont été enfants, qu'est-ce qu'ils ont dessiné ? Ils ont d'abord dessiné des militaires. Donc, on essaye d'éloigner l'enfant de la guerre, mais néanmoins, il reste passionné par le sujet.
Si on peut évoquer cette œuvre, Les étrennes de la guerre, absolument formidable, vous venez de la citer, mais en ce qui est extraordinaire, de fait, là, elle choque, mais ce n'était pas l'objet de la peinture, je pense, de notre sensibilité contemporaine, car c'est une peinture extrêmement joyeuse, colorée, les enfants sont fascinés, rieurs, heureux, bien nourris, tout lisse, mais le sujet, c'est quand même la guerre, ils ont des calots, et donc ça va à l'encontre de tout ce qui peut faire notre sensibilité contemporaine.
Absolument.
Et c'en est extrêmement choquant. C'est une œuvre vraiment intéressante.
Ah oui, mais Geoffroy est un artiste qui a parlé de l'évolution de la société à travers la représentation des enfants. Et donc, il touche juste à chaque fois. Il sait organiser ses compositions, il sait les colorer de manière à ce que ce soit à chaque fois un coup de poing pour celui qui regarde.
Quelle est la place de l'instruction au-delà des bataillons scolaires ? Parce que Dieu merci, l'instruction ne se résumait pas à ça. La place de l'instruction dans les représentations de l'enfance et dans la peinture de cette époque.
Dans l'exposition, on l'a représenté à travers un seul tout petit tableau de Camille Corot, qui vient de ce mur en auxois et qui représente donc un enfant d'une famille alliée aux Corot qui est en tenue pour partir au lycée. Pendant longtemps, l'enseignement, ça a été un précepteur qui était là pour enseigner, un instituteur. Et puis tout d'un coup, eh bien, l'enfant, on le socialise hors famille, on l'envoie dans des établissements. Et donc ce tableau qui date des années 60, en fait, c'était pour montrer cette rupture. Et après, les grandes lois, c'est les lois Jules Ferry 1882, donc ils vont rendre l'école publique, laïque, obligatoire, tout ce qu'on connaît.
Alors, effectivement, on a cherché des tableaux qui pouvaient rendre compte de cette ces lois Ferry. Géo, dont on parlait, est un des artistes qui va répondre à la commande publique et réaliser ces grandes images de cette école laïque obligatoire, mais ce sont des peintures qui sont de telle dimension qu'on ne pouvait pas les inclure dans l'exposition. Ce que nous avons fait en complément du tableau de Corot, c'est deux choses. C'est d'une part de présenter un tableau de Renoir où on voit toujours dans un cadre familial le petit Coco dont tout le monde se souvient, affublé de son costume de clown, ici accompagné de son institutrice à domicile pour montrer que ses pratiques persistaient, étaient autorisées dans un cadre extrêmement privilégié. Et puis nous avons aussi sélectionné des images d'Épinal pour rendre compte de cette réalité. Et nous avons l'école au village pour progressivement suggérer ces grandes lois et puis l'apparition, comme vous le disiez tout à l'heure, des droits de l'enfant.
Dans cette remontée vers le temps présent, on en arrive, non pas à la fin de cette émission, mais au XXe siècle. Quelle est la peur ? On a le sentiment, en regardant l'exposition, en parcourant le catalogue, que l'enfant n'est plus seulement un sujet de peinture, mais qu'il devient une source d'inspiration, voire... un modèle, une inspiration pour aiguiser notre regard, la façon de voir. Est-ce bien cela ou je n'ai rien compris ?
Non, vous avez parfaitement compris. C'est l'axe que nous avons choisi de développer. C'est de montrer comment l'enfant va passer d'un objet de peinture, apparaître timidement au XVIIIe siècle comme un sujet, devenir au XIXe l'un des sujets de prédilection des peintres, et au XXe siècle, parmi tant d'autres choses, être aussi à travers son dessin, le dessin enfantin, une source d'inspiration pour les avant-gardes. Alors les avant-gardes, ce sont Picasso, Matisse, et puis ensuite on fait un bond bien évidemment dans le temps, après la Seconde Guerre mondiale, avec l'art brut. Et il faut rappeler que au début du siècle, il y a un véritable engouement, un intérêt nouveau pour le dessin d'enfant. Au salon, on va présenter des expositions de dessins d'enfants. Et donc c'est quelque chose qui est assez connu, plutôt bien étudié. Alors, l'enfant qui intéresse ces peintres, ça n'est pas n'importe quel enfant, ça n'est pas justement le petit élève de l'école de Jules Ferry qui va apprendre le dessin géométrique obligatoire pour devenir l'ouvrier, le bon ouvrier, le bon dessinateur dont la France industrielle a besoin. C'est l'enfant que Félix Vallotton va décrire dans Le Ballon, un chef-d'œuvre de Félix Vallotton qui nous est prêté par le musée d'Orsay, qui court librement dans les jardins publics. C'est cette création spontanée, initiale, qui est dépourvue de toute influence extérieure, qui va intéresser des artistes, qui vont s'en saisir au même titre que l'art primitif, par exemple, pour forger un art nouveau. C'est ce qu'on appelle les avant-gardes.
Si on pouvait faire une ouverture, quel serait aujourd'hui, selon vous, le statut de l'enfant dans la peinture, aujourd'hui, dans l'art contemporain ? Est-ce que vous avez réfléchi à sa place ?
Je pense qu'aujourd'hui, l'enfant, dans la peinture et dans notre société, est redevenu ce qu'il était au départ. Il est cet enfant roi. Et donc cet enfant qu'on peut instrumentaliser de toutes les manières et auquel on peut donner, si vous voulez, toutes les interprétations et tous les rôles possibles. Comment ne pas évoquer l'enfant et la publicité ? Comment ne pas évoquer la création enfantine ? Comment ne pas évoquer des portraits qui restent encore des portraits aujourd'hui officiels ? Et donc, il redevient ce qu'il était au départ, finalement plus exposé qu'il ne l'a jamais été.
Vous dites au départ, c'est dans l'enfant, le rejeton de famille bourgeoise qui est exposé comme un signe de réussite sociale et une promesse d'ascension sociale.
Promesse d'avenir, oui, non, c'est sûr qu'aujourd'hui, la question de l'enfant roi se pose à nouveau dans des termes actuels et contemporains.
Je vous remercie beaucoup. Est-ce que l'un et l'autre, vous voulez ajouter quelque chose pour inciter, si c'était nécessaire, nos auditeurs à, d'une part, se rendre, comme je disais, à l'exposition, mais aussi à consulter le catalogue et à le commander pour ceux qui ne pourraient pas s'y rendre.
C'est une exposition qui présente 80 chefs-d'œuvre de la peinture française, des prêts exceptionnels qui viennent des plus grands musées français, mais également des plus grands musées internationaux, des grandes collections particulières. Et c'est une occasion unique de voir des œuvres d'une qualité tout à fait remarquable et de les lire, de les découvrir, de les appréhender de manière singulière.
Et pour venir au musée Marmottan, vous allez traverser le jardin du Ranelagh. C'est le printemps, les arbres sont en fleurs et les gosses sont de sortie. Donc vous aurez là le son que vous n'entendrez pas dans l'exposition. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Pour conclure, j'ajouterais que c'est une exposition formidable également pour ceux qui ne sont pas, comme moi, vous l'avez bien compris, des spécialistes de la peinture, car elle nous questionne, elle nous oblige à faire un retour sur nous-mêmes, à nous interroger sur la sensibilité, les valeurs qui sont les nôtres, et à découvrir que ce qui nous semble relever de l'évidence n'en est absolument pas, et combien certaines conquêtes, certains statuts sont beaucoup plus fragiles qu'on ne pourrait le croire. Merci de votre fidélité et à bientôt pour de nouvelles émissions sur Canal Académie. Thank you.
Thank you.